Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Chers auditeurs, auditrices de la Radio de la Paix, bienvenue dans le magazine Étoile. C'est un plaisir de vous le présenter. Je suis Rachel Kiesembangou, la technique est assurée par Emmanuel Kenagaro et la supervision par Jean-Marc Matwaki, Mofelele Dijano. Nouveau numéro, nouvel invité, Josaphat Roubenga, bonjour.
Bonjour Rachel.
Josaphat Roubenga, coordonnateur du mouvement Casque Vert, mouvement afro-écologiste qui a trois axes d'intervention, le lancement d'alerte, la proposition de solutions écologiques et économiques aux problèmes environnementaux et l'action collective ou individuelle. Josaphat, vous êtes gradué en environnement et développement durable à l'ISDER Bukavu, mais vous préférez plus que l'on mette en avant votre côté passionné en environnement?
Oui, exactement, parce que pour moi, l'environnement, c'est une question de vie, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Je parle même plus de passion parce que je vis avec, dans ma peau.
Quelle relation particulière entretiens-tu avec l'environnement?
Comme tout humain d'ailleurs, on a chacun la manière de vivre avec sa nature. Et moi, je suis né et grandi à peu près entre deux bateaux, entre Bukavu et Goma, et en passant par Idjoui, ma terre natale. J'ai une relation très 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 particulière avec principalement le lac Kivu, et cela m'a ramené à avoir des ramifications sur tous les autres aspects de la vie, de l'environnement, y compris les forêts, et aussi la gestion des déchets.
J'ai envie de te demander, pourquoi l'environnement?
Pourquoi l'environnement? L'environnement, c'est notre vie. Au fait, on ne vit pas sans. Et lorsque j'entends des gens dire l'homme est son environnement, en effet, on ne peut pas dire ça parce que l'homme fait partie de l'environnement. Et c'est lui qui a été le dernier à être créé et qui s'est comporté malheureusement à maître absolu et assez souvent destructeur.
Vous avez suivi d'autres formations en gestion du cycle du projet à Goma, atelier de formation sur la gestion des terres rurales, des formations qui vous ont servi à quoi?
Je pense que pendant tous ces temps-là, j'étais encore dans l'humanitaire. J'ai travaillé notamment avec IRC, j'ai travaillé à International Rescue Committee, je veux dire. J'ai travaillé aussi avec Watershed Holland. Ce n'est que un peu après que j'ai relié ce que j'avais envie de faire, ça veut dire la caméra, parce que je suis aussi passionné de la caméra, et que j'ai mélangé finalement. Je me suis décidé de me retourner vers ma passion plutôt que de continuer à travailler pour les ONG.
Josaphat, vous avez une grande expérience associative, comme vous venez de le dire, notamment pour avoir travaillé en 2009 comme fondateur et coordinateur de l'association socio-culturelle Bukavu Move.
Oui, à ce moment-là, on a créé l'association Bukavu Move. On était quatre et on était tous culturels. Finalement, chacun était parti de son côté, dans son coin, parce que chacun avait une vision claire de ce qu'il voulait faire. Moi, je me suis penché à l'environnement. DJ Gay était resté dans la musique et les cinémas. Tipo Moussafiri, il est resté dans son ingénierie de son et Gates est resté dans la vidéo.
Nous allons faire un peu marche arrière parce que vous l'avez évoqué tantôt, Josaphat, vous êtes également réalisateur pour avoir mis en scène certains films, longs métrages et beaucoup d'autres reportages, une autre passion.
Oui, justement. Et ce qui me rend heureux d'ailleurs dans la vie, c'est que j'arrive à concilier mes deux passions. J'aime la caméra et j'aime aussi la nature. Je suis artiste, mais mon art, je mets tout entier au service de la nature. Je suis très heureux parce que finalement, j'ai trouvé un terrain d'entente pour mes deux passions.
Comment tu arrives à combiner justement ces deux passions, la caméra et la nature?
Je mets la caméra au service de la nature.
En quoi faisant?
Ça veut dire, après Bukavu Move, j'ai mis en place une structure qui s'appelle le chantier des jeunes pour l'écologie. Et là, ça remonte des années 2010. Mais là aussi, j'avoue que c'est la conciliation même entre les deux passions. L'année 2010 était dédiée mondialement à la biodiversité. Je voulais réaliser à tout prix un court film sur la biodiversité de la ville de Bukavu. Donc, j'ai fait mon repérage et consort. Et tout repérage fait, caméra à la main, je suis parti commencer mon tournage. Et plus loin, dans les montagnes, dans les collines de Bukavu, je tombe pile poil en face d'une rivière. Et cette rivière a changé toute ma vie. C'est la rivière Kawa qui charrie encore tous les déchets de la commune de Kadutu jusque dans le lac Kivu. Et donc, je l'ai longé d'amont en aval, et en arrivant là où cette rivière vomissait tous les déchets dans le lac, j'ai définitivement commencé à voir mon premier sujet sur la biodiversité de la ville de Bukavu comme un prétexte. J'ai commencé à documenter finalement sur le lac Kivu. J'ai dit, mais tiens, je vais bien réaliser un film documentaire sur le lac Kivu finalement et sa pollution. Mais il faut aussi agir en attendant. C'est comme ça que j'ai mis ensemble des jeunes artistes. Je me rappelle, c'était dur parce que tout le monde va te poser la question. Oui, tu veux qu'on se réunisse pour faire des sensibilisations en chant, mais qui finance? Et moi, j'avais une réponse, c'est toi et moi, si tu es d'accord avec moi, ça veut dire que c'est déjà un financement, nous finançons. Ils me disent, oui, mais on doit quand même payer les studios pour l'enregistrement. Je leur disais toujours, lorsqu'un projet est porteur, les gens s'écrasent pour le financer. J'étais à peu près convaincu que je trouverais quelqu'un qui va m'écouter, qui va écouter la voix de la nature, parce que un artiste, c'est aussi le porte-parole, on va dire la voix des sans-voix. Et la nature fait partie des sans-voix. De ce monde.
Mais tes débuts dans le domaine environnemental, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cela?
Ah.
Que tu t'intéresses à l'environnement.
Que je m'intéresse à l'environnement. C'est un syllabus que j'ai lu quand je finissais l'école secondaire.
Lequel?
Un syllabus de droit, parce qu'à la base, je voulais faire une formation en droit. Il y a un aîné qui, je sais pas comment je suis tombé sur son syllabus, et c'était le droit de l'environnement. Donc, c'est un cours, je crois déjà trois, je sais plus, mais j'ai lu ces syllabus comme ça, et il s'est passé un tilt dans ma tête. Je devrais aller prendre mon inscription pour l'université. À la base, je voulais faire le droit, mais ce syllabus m'a tourné la tête. Du coup, je suis parti plutôt à l'ISDR au lieu d'aller à l'UCB.
Une autre expertise que vous avez, c'est en gestion et management d'un projet de plaidoyer et sensibilisation sur la protection environnementale participative et durable du lac Kivu. Quel plaidoyer faites-vous sur le plan environnemental aujourd'hui?
Comme je vous disais, en 2011, on met en place le chantier des jeunes pour l'écologie et on est sorti de la résidence des créations avec 5 chansons audio et vidéo que nous avons produits notamment. La première, c'était Hatuta Kitena et c'est mon Swahili qui veut dire plus jamais ça. On ne veut plus de ça. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? On ne voulait plus les constructions anarchiques tout autour du lac. On ne veut pas le déboisement du bassin versant du lac Kivu. On ne veut plus aussi de la pollution exagérée des eaux du lac Kivu, provoquant notamment plusieurs maladies, que ce soit dans les rangs animaux des habitants du lac ou les riverains, les peuples riverains. Voilà, nous portons ce plaidoyer. Il y a une autre chanson qui parlait du pêcheur, le pêcheur qui se plaint sur la capture qui baisse exponentiellement. On a parlé d'une autre chanson, le poisson qui lui aussi se plaint, qui dit, ben écoutez, vous transformez ma maison en poubelle et vous me jetez des déchets toxiques sans vergogne. Excusez-moi, mais je m'en irai là où me traite bien. Et le poisson, il parle évidemment du pays voisin. Il y a une politique plus ou moins assise d'assainissement. Tout explique le fait que assez souvent on va s'y ravitailler un poisson au Rwanda, parce que au moins là il y a des berges qui sont plus ou moins protégées. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas des politiques collectives, parce que le lac Kivu quand même c'est un patrimoine commun entre le Congo et le Rwanda, donc on devrait avoir une politique commune pour sa gestion.
C'est mais énervant. Y a-t-il des aboutissements par rapport à ces plaidoyers que vous faites, parce que vous les faites aux autorités?
Ça, j'avoue que nos autorités, ils écoutent qu'une seule voix, c'est la pression. Comme ça, leur parler, en effet, ils vous disent, oui, on a entendu, à la limite, vous leur déposez un cahier de charge, ils disent, ils ont tous la même réponse, on a entendu, et on va faire arriver le message à qui de droit. En fait, les chansons, elles avaient deux objectifs, c'est à la fois le plaidoyer vers les autorités, mais il y avait aussi une sorte de sensibilisation vers les populations. L'année passée, on a réalisé aussi une chanson de plaidoyer.
La dernière en date?
La dernière en date, s'appelle Dégazé, parce que le lac qui vous présentait à la fois plusieurs opportunités et plusieurs dangers, parce qu'aujourd'hui on nous parle des 18 cônes volcaniques qui sont à l'intérieur du lac qui vous, qui ne sont même pas suivis par l'OVG, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire. Mais 18 cônes volcaniques, il n'y a aucun scientifique qui est capable aujourd'hui de nous dire, est-ce que c'est des volcans dormants ou éteints, comme on les appelle abusivement, ou c'est des volcans en formation? On ne sait pas. Alors que le lac qui vous régorge plusieurs types de gaz, complètement. Oui, on parle toujours du méthane. D'ailleurs, je suis content que vous le disiez ainsi. Mais malheureusement, on parle du méthane uniquement parce que c'est un gaz économiquement rentable. Mais on ne parle nullement du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, du CO2, parce que tout simplement, il n'est pas aussi rentable que le méthane. Et moi, ça m'énerve parce que lorsque on fait des ressemblances entre le lac Kivu et le lac Nyos au Cameroun qui a tué les gens par une explosion gazeuse en août 1986, En fait, il n'y a personne qui nous a dit qu'il y avait du méthane dans les lacnios. C'est que du dioxyde de carbone. Mais ce dioxyde de carbone, c'est lui qui représente le plus grand danger pour les riverains du lac Kivu. Il y a tous ces dangers-là et il était question qu'on exige le dégazage du lac Kivu parce que lorsqu'on exploite le méthane, le danger n'est pas du tout écarté. Encore que si on n'a pas une bonne technique d'exploitation du méthane, parce que le méthane s'exploite physiquement, on envoie une sorte de sonde dans la profondeur du lac, on remonte les eaux chargées des différents gaz, et finalement on prend celui qui intéresse, en l'occurrence, c'est le méthane. Du coup, ils sont obligés de refouler les eaux dans une profondeur où il n'y a pas de vie pour les bêtes aquatiques, ça veut dire les poissons et consorts, et ils renvoient aussi le méthane, le dioxyde de carbone. Malheureusement, si on n'a pas refoulé à la bonne distance, eh ben, il y a des dangers contre les espèces vivantes dans le lac, notamment les poissons. Nous y sommes et nous restons convaincus que les arts peuvent contribuer à changer, à bouger les lignes, en tout cas en ce qui concerne la conservation de la nature. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes sur une droite ligne parce que on doit parler du casque vert, finalement. La transition entre les chantiers des jeunes pour l'écologie et les casques verts, c'est parce qu'entre les deux, il y a eu aussi un creux. Je devrais encore rejoindre les humanitaires, les mondes humanitaires, pour être capable de nouer les deux bouts de moi, parce qu'il faut rester vivant pour se battre pour la protection de la nature. Et donc, il y a eu un vide entre 2013 et 2017. Ce n'est qu'en 2017 que je reviens à Bukavu pour relancer timidement le mouvement des chantiers des jeunes pour l'écologie, mais ça ne fonctionnait pas très bien. Et en 2020, Corona arrive finalement pour nous démontrer qu'il n'y a que notre mère nature à qui on peut se fier. Il nous a révélé un monde où il n'y avait pas de contact entre les humains. Restez chez vous, j'ai resté chez moi. Mais les seuls contacts dont on avait besoin, c'était la nature. Alors, moi, je me suis décidé personnellement d'aller me confiner, de faire une nouvelle forme de confinement, me confiner dans les quatre baies qui composent la ville de Bukavu. Notamment, c'était pour démontrer à la municipalité quelle quantité de déchets une seule personne était capable de sortir du lac en une journée de travail à main nue, tout seul.
C'est ce que vous avez fait.
C'est ce que nous avons fait, effectivement. J'arrivais dans un endroit, je me fais un challenge, je fais une photo avant et après, à 16h30, je refais la même photo et je prenais les deux, je mettais côte à côte, j'envoyais à monsieur le maire. Lui qui disait que c'est la population qui ne comprend pas. Et moi, je disais toujours, c'est les autorités qui ne prennent pas de bonnes décisions. Parce que le jour où ils prennent des bonnes décisions, ils ont des mécanismes de suivi et des mises en exécution de ces décisions. Sinon, on aurait déjà refusé de payer la taxe. Mais comme ils ont des méthodes contraignantes de faire payer la taxe, eh bien, on la paye.
Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons parler de casque vert, justement. Mais avant cela, nous vous proposons une pause musicale avec cette chanson dégazée. Une collaboration des artistes de Goma et de Bukavu.
Exactement. C'était une collaboration D'ailleurs, je dis merci à tous les artistes qui ont participé à la chanson. Et voilà, suivez.
Je vis et je meurs. Je me brûle, je me noie. Du haut du cratère, au fond du lac et de la mer. Nourrir l'eau,
dégazer,
le lac qui vous, nourrir l'eau, dégazer, le lac qui vous.
Nous refusons de nos ranchers, ouais, s'il faut déranger pour réclamer, exiger. Dokobunda, Dinasuka,
sans armes,
nous combattrons
sans larmes.
Nous combattrons
sans armes.
Nous combattrons.
Nous ne sommes pas 10 ou 10 000 rescapés de la machette des rebelles. Candidats à la mort par gaz lacrymogène et méthane. Méthane et carbone, nous sommes 2 millions.
Kazi ya pati na moto na chomo kama nyama mie wabo kazi ya maji na volkai na sumbuka na kiu bayama japo lake na yala kupita kipimo.
tuto shei gazeta tua o.
Mais ce qui bisogne soto pufi nanya ko kunda nanyo. To ana besoin de abaninga bayampo ba kundi la biso bato. Prenons conscience totalement à l'isangande tu kukuma.
Hey, me tu bakilia chako amaja tu kula simisha viongozi watu watoshe gaze. Sasa hivi haraka salango iweze kanavyo bada itakuwa nyuma sana nyuma sana sana.
Ja love slash ya eyes ayoyo man. J'en appelle à tous mes frères, on ne peut plus.
Mais c'est le président du pays de mille collines, depuis le sommet de tes collines.
Non, crayon.
Mais c'est le président du pays de mille vallées, mille forêts, depuis les Kivu.
Non, crayon.
Diablesse. Mais c'est le président de l'Union africaine, depuis la RDC, nous crions haut et fort.
Ah, l'Union européenne et les États-Unis, depuis la RDC, nous plairons.
Secrétaire général des Nations Unies, depuis l'Afrique et nous lâchons.
Hey, sortons, sautons, marchons, dérangeons même Gilles qui nous écoute. Hey, tu nous prêtes.
Tunaweza kuepuka eh, ineza tupa kazi mingi na makuta eh, lakini tunaza tu kulalamika. Ye butajiri yetu njo hatari yetu. Nasema gaze yenyewe kwanza kabisa si makuta, lakini hapa kesho si yenyewe itatuzika.
Ye hatari kabisa eh.
Ha 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 ha, ha.
C'était La Dégazée, une collaboration de 9 artistes de Bukavu et de Goma, dont Papi Kero,
Issa Le Rossignol, Salarine Saïdat. Il y a également
Master Bichako,
il y a aussi Lionel et Congo, il y a Patrick Bolisomi, il y a également Safari, les slameurs, il y a également Jurès Moussafiri, et tout ça par l'aide technique du studio Kaboneke et l'aide financière de 11-11-11 pour la réalisation du clip.
Ensemble, ils se sont unis pour demander le dégazage du lac Kivu.
Exactement, parce que pouvait avoir des différends sur le plan de leadership artistique et consort, mais je leur ai dit qu'il est préférable, voire préalable, que l'on vive d'abord avant d'entretenir des conflits, s'il en existe. Et donc voilà, il fallait absolument qu'on mette une voix ensemble pour exiger le dégazage du lac Kivu, parce que c'est un danger permanent.
Mesdames et messieurs, magazine Étoile, dans sa deuxième partie, notre invité, c'est Josaphat Roubenga, coordonnateur du mouvement Casque Vert, mouvement afro-écologiste. 2020, vous mettez en place Casque Vert. C'est quoi Casque Vert?
Ah, Casque Vert, pour être honnête, je pense que j'ai pas créé ce mouvement. Le mouvement s'est créé par lui-même et par Facebook. C'est lorsque je me décide d'aller en confinement écologique, comme je l'avais appelé à ce moment-là, j'ai commencé à ramasser les déchets à main nue dans le lac. Au deuxième jour de mon travail, j'ai ramassé parmi mes déchets un casque bleu des Nations Unies. Et comme il fallait recycler tous mes déchets, les déchets que j'ai ramassés, je les donnais à une entreprise qui s'occupe du recyclage. Mais comme il fallait que je recycle tous mes déchets, donc je me suis décidé de laver ce casque. J'ai commencé à l'arborer pendant mes courses en moto. Mais comme c'est un engin militaire, il fallait bien que je le revendique d'une manière ou d'une autre. Donc je l'ai mis en portrait sur Facebook, sur Instagram, Twitter, partout. J'ai mis ma tête avec ces casques. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires qui ont déferlé sur la toile. Les gens me disaient « Non, mais il faut quand même rendre ce casque aux Nations Unies ». D'autres me disaient « Finalement, le lac Kivu t'a récompensé et te reconnaît. Le lac Kivu te reconnaît comme son casque bleu, donc son protecteur. Et finalement, il y a un qui vient de Kinshasa. On ne s'est jamais rencontré avec cette personne qui, pour moi, véritablement, est le créateur du casque vert. Il m'a dit ceci, il m'a écrit sur Facebook en me disant « Monsieur, il est temps de repeindre ce casque en vert pour lancer un mouvement qui s'appellera casque vert. » Voilà comment est-ce qu'est né le casque vert. Donc, le casque vert, c'est un enfant des réseaux sociaux. Il est né sur les réseaux sociaux. Parce que le casque vert est un enfant des réseaux sociaux, évidemment, lorsqu'il faut impliquer les jeunes dans toute chose, il faut les rencontrer là où ils sont véritablement.
Alors, vous avez créé, vous mettez en place une application que vous avez appelée, vous allez appeler l'application mobile Kavert.
Oui. Kavert App, c'est justement la motivation qui nous pousse à créer en tout cas cette application, c'est que les jeunes, lorsqu'il faut les impliquer, il faut savoir où ils sont exactement, il faut savoir les identifier. Parce que nous avons des contingents dans les écoles et universités, y compris les écoles maternelles, mais comment on rejoint alors cette autre tranche des jeunes qui ne vont pas à l'école, d'autres qui ne vont même pas dans les églises? Finalement, on se rend compte que étudiants ou non étudiants, intellectuels ou pas, on va se retrouver tous dans un endroit et tous, ils sont sur leur smartphone, très précisément, dans les réseaux sociaux. Donc, il fallait bien rejoindre les jeunes où ils sont véritablement. C'est dans les réseaux sociaux, c'est ainsi que nous mettons en place une sorte de communauté virtuelle d'activistes écologistes qui s'appelle Kavert.
Alors, quelles sont les principales activités que vous menez au sein de votre mouvement Casque Vert?
En tant que mouvement citoyen afro-écologiste, encore que la notion afro-écologiste, faut qu'on y revienne. Il s'agit d'une conviction et que, voilà, l'Afrique, il faut qu'elle prenne conscience de sa contribution à la vie de la planète Terre et que, par voie des conséquences, les autres continents rémunèrent l'Afrique en fonction de ce qu'elle donne comme contribution à la survie écologique de la planète. Donc nous poursuivons trois objectifs, c'est lancer les alertes contre les abus environnementaux. Deuxième objectif, c'est de proposer des solutions économiques et écologiques aux problèmes environnementaux. Et troisième axe, c'est de pousser cette communauté à agir. Agir tant individuellement, ça veut dire mettre en lumière les actions de ceux qui interviennent en faveur de la nature. Donc agir collectivement, aussi individuellement.
Vous êtes financé ?
Non. Ben, financé, oui, par nous-mêmes, évidemment, par nos membres. La question qu'on pose souvent, vous êtes financé, on sous-entend directement l'appui extérieur. Mais non, au stade actuel, non. On travaille avec les cotisations de nos membres.
Quels sont les acquis du mouvement Casque Vert de 2020 en 2023?
Bon, il y a eu beaucoup d'activités, honnêtement, et qu'on ne peut pas quantifier en termes de capitalisation. À se dire, il y a eu telle réponse à telle question qui a été posée par le mouvement au stade actuel. Parce que de 2020, on s'est occupé beaucoup plus à identifier les problèmes environnementaux et à les dénoncer aussi notamment. Mais comme je vous disais, les actions de plaidoyer ne trouvent presque jamais des solutions. C'est vraiment du temps, beaucoup de temps. On a fait par exemple des ateliers où on évalue un peu les textes réglementaires dans les domaines de la gestion de déchets, où on a invité tous ceux qui sont censés être dans la chaîne d'exécution des différentes lois, notamment sur la loi organique portant gestion de l'environnement en RDC, les 10 provinciales portant sur la gestion de déchets au niveau de la province du Sud Kivu, qui interdit formellement l'utilisation, l'exploitation, la fabrication, l'utilisation, la commercialisation du sac plastique. Alors nous, on se pose la question de savoir où est-ce que ça pêche? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en exécution? Est-ce que c'est des moyens qui manquent à l'État de faire exécuter ses propres lois édictées? Est-ce que c'est, on se moque du législateur? Alors dans ces cas, est-ce que la police des frontières n'est pas au courant que ces sachets ne doivent pas être importés? Parce que, à ce que je sache, la plus grande partie des sachets plastiques ne sont pas fabriqués ici en province. Est-ce que c'est la DGM qui n'est pas au courant? Est-ce que c'est une ignorance de l'existence de la loi où on se décide de la piétiner de manière tout à fait délibérée? Eh ben, on fait des ateliers comme ça et tout le monde nous dit, on connaît que la loi existe, mais on attend un go, qu'on nous dise, voilà, la décision est prise, et ce genre de décision traîne toujours à venir. On se démerde quand même sur plusieurs terrains. Malheureusement, on n'est pas prêt de se faire entendre, mais nous espérons que, en changeant aussi également des méthodes, on va y arriver.
Notre pays regorge beaucoup d'organisations environnementales. Quelle est votre particularité?
Notre particularité, c'est l'introduction du numérique dans la conservation de la nature. Et l'application Kavert va nous aider à créer cette communauté virtuelle. Et je pense que c'est notre vraie particularité. Et cette communauté va avoir une capacité de pression à pouvoir dissuader parce que nos autorités n'écoutent qu'un seul langage, c'est la pression. Évidemment, ça nous aide aussi notamment que les autorités ne prétextent pas ignorance des problèmes environnementaux existentiels et notamment aussi la promotion de ceux qui font bien dans le secteur, ça veut dire qui proposent des solutions économiques et écologiques aux problèmes environnementaux. On ne peut pas n'est pas mettre en lumière ce genre de personnes qui, elles, apportent quelque chose de bien au sein de la communauté et de la mère nature.
Merci de nous suivre partout en RDC et même au-delà des frontières. Magazine Étoile, troisième et dernière partie. Nous recevons Josaphat Roubenga, coordonnateur du mouvement Casque Vert, mouvement afro-écologiste. Dites-nous, vous avez mis en place un projet, le projet Tilatopia, d'une île flottante à base de 1 500 000 bouteilles plastiques et autres types de déchets. Projet initié par trois écologistes et entrepreneurs de Bukavu dans les but de dépolluer le lac Kivu. Et vous, Josaphat, vous êtes coporteur de ce projet.
Exactement, et c'est la partie où on propose des solutions économiques à des problèmes environnementaux. Il va y avoir des solutions économiques, mais qui portent parce que Tilatopia, c'est un projet tout à fait écologiquement valable et économiquement rentable. Ça veut dire que nous allons créer une île flottante sur le lac Kivu à base des flotteurs issus des bouteilles plastiques remplies d'air.
Le projet est déjà mis sur pied.
Le projet est en train d'être mis sur pied, oui. Et nous avons pensé justement mettre en place d'abord un prototype, une version réduite de la plateforme. Et aujourd'hui, les résultats sont très, très, très satisfaisants. Les gens peuvent déjà visiter cette plateforme. C'est pas loin de Connexion Beach, la botte. À côté, il y a un hôtel qui s'appelle Bois Noir. C'est là exactement où est logé notre premier prototype pour vous rassurer évidemment les utilisateurs de l'île pour pas se dire que voilà, ça va couler.
Donc il y a quoi dans cette île, on va y trouver quoi?
Dans Tilatopia grand format, on aura un resto-bar, on aura une salle de conférences et des réunions remodelables. Et puis 6 chambres d'hôtes. On aura également des cages à poissons sur l'île. On aura aussi évidemment un espace de bien-être, un spa équipé d'une sorte de sauna. À côté de tout ça, il y aura des quais flottants que nous aurons installés dans la ville, en tout cas, dans les baies et sur la périphérie de la ville, pour nous permettre d'accéder à l'île Tilatopia. Et cela grâce à un transport lacustre qui est aussi tout à fait écologique, avec des bateaux solaires, des bateaux qui vont fonctionner pas avec de l'essence ou de mazout, mais essentiellement avec l'énergie solaire. Donc tout est bio sur la plateforme et l'éclairage, tout est. On aura aussi évidemment de la permaculture. On va produire aussi nos légumes sur l'île, on va produire nos poissons sur l'île et on va les manger.
Où vous voyez Casque Vert dans les années à venir?
Dans les années à venir, en tout cas dans les années les plus proches possibles, on aura envahi la planète. Parce que comme je vous disais, le numérique est très essentiel au stade actuel de notre vie. Ça veut dire que nous allons nous implanter à travers toute la planète, notamment par l'application mobile Cavert. Parce que on n'a plus besoin de ce. C'est aussi notamment ça un des acquis de Corona, parce qu'il nous a appris à travailler à distance. Donc on va s'installer dans tous les pays et grâce à cette application mobile sans être obligé d'y aller.
Nous vous souhaitons plein succès.
Merci beaucoup.
C'était Josaphat Roubenga sur Radio Okapi. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Josaphat.
C'est moi qui vous remercie de votre attention, de l'attention que vous portez à notre mouvement et à notre lutte.
Fidèle auditeur, auditrice, merci à vous également qui êtes branchés sur la radio de la paix. C'est la fin de votre magazine Étoile d'aujourd'hui qui est déjà disponible sur les sites de Radio Okapi, sur le www.radiookapi.net. Rachel Kissimbangou, c'est moi et j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Merci à Emmanuel Canagaro qui était de la partie technique et à Jean-Marc Matuakimo-Felele qui était à la supervision. À la prochaine, au revoir.